CQFD, votre émission de science et de santé, Sylvie Dolzon.
Une équipe internationale de géologues dirigée par l'Université de Berne a montré pour la première fois que les Alpes suisses se soulèvent plus vite qu'elles ne s'érodent. Une étude qui est parue dans Earth Science Reviews, Sarah Diren.
Oui, en effet, Silvio, les Alpes européennes s'élèvent en moyenne de 80 cm par millénaire. En Valais, ça va de 1 à 2 mètres par 1000 ans. C'est-à-dire qu'elles sont soulevées plus vite qu'elles ne sont détruites, vous l'avez dit, par l'érosion. Et elles continuent de s'élever. Alors, comment les chercheurs sont-ils parvenus à cette conclusion? Eh bien non, pas en mesurant le Cervin avec un énorme mètre, mais en étudiant les isotopes dans les sables, des sables issus de plus de 350 rivières à travers les Alpes européennes. Des isotopes qui nous renseignent sur l'érosion de la surface de la Terre. Et c'est la première fois que des chercheurs parviennent à établir un tableau de l'érosion des Alpes.
Bonjour Romain de Lunel.
Bonjour.
Vous êtes géologue à l'Institut des sciences géologiques de l'Université de Berne. Vous êtes aussi un des auteurs de cette recherche sur les dynamiques géologiques alpines. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, Sarah a parlé d'isotopes. Rappelez-nous ce que ce sont les isotopes.
Alors, les isotopes, ce sont les différents types d'atomes d'un même élément qui se distinguent seulement par leur nombre de protons. Et donc, nous, on utilise le béryllium et donc sa version du béryllium-10 qui, au lieu d'avoir uniquement 5 neutrons, en a 6. Et donc, il a une masse de 10.
Alors, voilà. Pourquoi le béryllium?
Alors, le béryllium, parce que c'est un nucléide cosmogénique, donc un isotope créé par le rayonnement cosmique, par les neutrons qui viennent produire des réactions dans certains minéraux, et notamment dans le quartz. Et ce quartz qu'on peut retrouver dans les sables de rivière, est très intéressant justement pour analyser l'érosion.
Oui, si j'entends bien, il ne se forme que dans les premiers mètres de la surface de la Terre?
Oui, tout à fait. On estime qu'il se crée à peu près dans les 3 premiers mètres de la surface de la Terre. Et donc, quand on arrive à mesurer leur concentration, on peut connaître le temps que les matériaux ont passé à cette surface. Et si on mesure dans les sédiments, donc dans les particules qui ont été arrachées aux montagnes, on peut caractériser la vitesse de l'érosion de cette surface.
Alors, Romain de Lunel, c'est un petit peu comme le carbone 14, hein, votre béryllium. Il permet donc de mesurer l'érosion dans ce cas-ci, donc les Alpes. Mais de quoi dépend cette érosion avant tout?
L'érosion dépend de plusieurs facteurs, mais ce qu'on a pu montrer dans notre étude, c'est que au premier ordre, en général, à l'échelle des Alpes, l'érosion, la vitesse de l'érosion dépend grandement de la topographie, de la forme et notamment de la pente des montagnes et des bassins versants en l'occurrence.
Et les précipitations?
Alors les précipitations, même si elles ont un impact assez fort à des échelles de temps assez courtes, et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle dans nos montagnes, on se rend compte que sur plusieurs milliers d'années, en fait, le rôle des précipitations n'est pas directement responsable de la vitesse de l'érosion.
Alors vous parlez de pente, Romain de Lunel, et je songe évidemment à l'île Graben en Valais. Là, il y a une très forte érosion.
Oui, tout à fait. On se rend compte avec nos méthodes, mais aussi avec d'autres analyses indépendantes, que dans l'île Graben, on a des phénomènes d'érosion qui sont particulièrement extrêmes. Et ce bassin versant-ci est vraiment un monstre à l'échelle des Alpes. Mais finalement, il n'est vraiment pas la norme. Hein. À l'échelle du Valais, on se rend compte que les vitesses sont plutôt de l'ordre du millimètre par an ou un peu plus, c'est-à-dire d'un mètre à deux mètres par millier d'années.
Oui, et l'île Graben, c'est à peu près 7,5 mètres par millénaire. C'est
ça,
énorme.
C'est ça. C'est tout à fait énorme, mais on se rend compte que finalement, c'est vraiment une zone très localisée, qui n'est pas représentative de l'ensemble des Alpes, mais qui reste très intéressante pour les géologues, en l'occurrence.
Et si on prend à contrario Romain de Lunel, où est-ce qu'elle est la moins forte, cette érosion?
Alors, si on regarde la Suisse, hein, on se rend compte, et il y a eu des études qui ont montré, et notre étude remet ça en perspective, que dans le nord-est de la Suisse, et notamment dans le massif du Hörnli, On a là des vitesses qui sont de l'ordre de 50 mm par millier d'années, ce qui est très faible. Mais en général, sinon, c'est plutôt du côté de l'extrémité est de la chaîne alpine qu'on retrouve les vitesses également assez faibles.
Alors maintenant, venons-en à l'orogenèse des Alpes, hein, c'est-à-dire au soulèvement des Alpes dû aux forces intérieures de la Terre. Donc le soulèvement est plus rapide que l'érosion, c'est ça?
Alors là, oui, en comparant nos données d'érosion à l'échelle des bassins versants dans les Alpes, en comparant ces données avec des vitesses de soulèvement qui sont acquises par les géophysiciens, les géomètres, les cartographes, on se rend compte que sur des échelles de temps assez récentes, qui remontent finalement aux mesures GPS de la vitesse de soulèvement de la surface, on se rend compte que dans les Alpes suisses, ce soulèvement est plus rapide que la vitesse d'érosion.
Même à l'île Graben.
L'île Graben, je sais que c'est justement, c'est vraiment, on le voit beaucoup, donc c'est difficile de passer à travers. Oui. Mais il faut se rendre compte que justement, à l'île Graben, certainement qu'on a une érosion plus forte qu'un soulèvement. Ah mais oui. On regarde, nous, sur des échelles spatiales relativement grandes. Mm-hmm. Et donc, l'île Graben, finalement, n'est pas très représentatif. Et voilà, on ne fait pas toute notre histoire sur l'île Graben.
Ouais, non, bien sûr que non, c'est un cas vraiment très particulier. Donc le soulèvement est plus rapide que l'érosion, mais est-ce qu'il est uniforme? Parce que s'il y a une exception, même minime, dans l'érosion, est-ce qu'il y en a aussi dans le soulèvement?
Alors non, ce soulèvement, il est assez variable dans l'espace, et si on distingue trois grandes zones au niveau des Alpes européennes, on va caractériser la partie ouest, donc la française et italienne. On va voir qu'ici, on a un espèce d'équilibre entre les vitesses d'érosion et le soulèvement. Dans la partie des Alpes suisses, des Alpes centrales, on a ici plutôt une victoire du soulèvement au détriment de l'érosion. Et puis si on va plutôt dans la partie est, en se dirigeant vers l'Autriche, ici on se rend compte que finalement les montagnes sont en train d'être érodées plus rapidement qu'elles ne sont soulevées.
Mais est-ce que ces résultats vous ont surpris, Romain de Lunel? Parce que jusqu'alors, il semblerait qu'on pensait qu'il y avait un match, un 0-0 partout, hein, un équilibre entre l'écorce terrestre, les forces, hein, l'écorce terrestre et l'érosion. En fait, il n'en est rien.
Alors, il se trouve qu'en fait, on se basait beaucoup sur des études relativement similaires qui avaient été faites dans les années 2000. Et qui montrait, avec un nombre de données assez restreint, qu'il y avait un équilibre, même au niveau des Alpes centrales suisses, il y avait un équilibre entre soulèvement et érosion. L'intérêt de notre étude, c'est vraiment de remettre en perspective ces travaux avec une base de données étendue, qui a été faite sur plus de 10 ans, et qui montre que quand on a un nombre suffisant d'échantillons, on arrive à vraiment mieux caractériser. Et c'est donc le résultat qu'on a pu mettre en évidence, c'est que dans les Alpes centrales, on a un soulèvement plus rapide. Conséquent.
Oui, mais ça ne va pas grimper éternellement. Les Alpes ne vont pas atteindre des sommets d'ici quelques millénaires.
Alors, ça pose beaucoup de questions, exactement. Et non, on ne pense pas que, justement, les Alpes puissent monter éternellement. Là, on a une étude qui est représentative, finalement, d'une petite période de temps sur la vie des Alpes. Et donc, on imagine qu'il y aura, pendant peut-être une future phase, une époque glaciaire, peut-être une érosion plus conséquente, qui viendra réduire la taille des Alpes.
Et un autre géologue me disait, il y a quelques mois, dans 150 millions d'années, le Cervin, ce sera une mode de beurre. C'est un peu ça. Ouais. Puisqu'on parle de ça, dans 150 millions d'années, c'est pour ça justement, parce que tout va finir par changer un petit peu, que la chaîne du Jura, qui est plus ancienne que les Alpes, est aussi moins haute.
Alors, le Jura est vraiment une conséquence du soulèvement des Alpes, donc la topographie du Jura est plus récente que la topographie des Alpes. Même s'il y a des roches très anciennes, leur soulèvement a été vraiment lié à la compression et à la collision alpine. Et donc, c'est plutôt qu'on est à l'écart des forces tectoniques les plus fortes. C'est pour ça qu'elle est moins haute, cette chaîne du Jura. Mais ce n'est pas à cause d'érosion. Et là, dans ce cadre, on est sur des roches calcaires où l'érosion est difficile à quantifier. Mais on a des phénomènes de dissolution plus importants que dans les roches souvent cristallines des Alpes centrales.
L'orogenèse contre l'érosion 1-0. Un grand merci Romain de Lunel. Je rappelle que vous êtes géologue à l'Institut des sciences géologiques de l'Université de Berne, un des auteurs de cette recherche sur les dynamiques géologiques alpines. Vous avez répondu à Sarah Diron. Je vous souhaite une toute belle journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
De 10h à 11h, CQFD.